Bonsoir, bien voilà la deuxième partie de Onde Noire.
J'ai cru que tu allais recommencer, qu'on allait refaire la première partie.
Non, pourquoi pas.
Voilà, donc deuxième partie, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, au sommaire, pardon, des coups de cœur. Le premier sera un coup de cœur familier, puisque je vous parle régulièrement des romans de Thomas H. Cook, un grand écrivain américain.
Américain, oui.
Thomas H. Cook, le livre s'appelle « Au lieu dit noir et temps ». C'est publié chez Seuil Policier, et la traduction est de Philippe Loubat d'Elblanc. Quand on ouvre un roman de Thomas Cook, on sait que les teintes noires, le noir, va se teinter en gros de couleur sépia. Vous savez, cette teinte caractéristique qu'on attribue aux vieilles photos. On sent encore qu'une fois de plus, les lourds secrets anciens vont peser sur les épaules de ces personnages et que les filiations, les relations familiales auront un rôle prépondérant dans les drames passés et présents. Vous allez me dire, si on sait tout ça, pourquoi ouvrir le livre? Pourquoi en lire encore un? Tout simplement parce que les thèmes que je viens de citer, ce sont des thèmes majeurs du roman noir et de la littérature en général, et que je dirais que c'est un thème inépuisable. Et puis aussi, et surtout, parce que Thomas H. Cook est un super raconteur d'histoire. Et encore une fois, je n'ai vraiment pas été déçue. Bien sûr, on n'est quand même pas tout à fait au niveau des Feuilles mortes, roman dont je vous avais parlé il y a quelques années, qui était paru à la série Noire, qui était un pur bonheur de lecture, mais Au lieu dit noir et temps ne déçoit absolument pas les fans de cet écrivain américain, bien au contraire.
Mais si je m'abuse, c'est un roman qui est plus ancien en fait, qui a été écrit il y a plus longtemps.
Il y a plus longtemps.
Feuilles mortes.
Là, tu me poses une colle parce que je ne sais pas quand il a été écrit, mais je pense que je vais te le dire dans pas longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute à ses thèmes favoris, donc ceux dont je vais vous parler, c'est il y a là-dedans un subtil parfum issu tout droit des grandes œuvres du 19e siècle. Lorsque les jeunes garçons s'étiolaient dans d'austères pensionnats et que de lumineuses jeunes femmes se mouraient de passions impossibles. En fait, un peu les romans de Jane Austen, Sense and Sensibility, ce genre de choses. Une petite lecture pour commencer, pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, tu as trouvé la date?
Oui, c'est un roman qui date de 96.
Publication
américaine.
Bien plus ancien que Les Feuilles mortes. Donc, comme je vous le disais, une petite lecture pour vous mettre dans l'ambiance. C'est le narrateur qui parle. Au loin, je vis une vieille cloche en fonte se matérialiser dans l'air immobile du campanile depuis longtemps désert de ce qui fut Chatham School, puis commencer à se balancer, comme mue par une main invisible. Ses tintements implacables se répercutant par-delà les bâtiments et les terrains de sport de l'école pour nous signifier de nous rendre à nos cours du matin, dont elle nous libérait en fin d'après-midi, sonnant les matines et les vêpres avec une autorité et un sens de l'à-propos qui n'avait que peu diminué depuis l'époque des moines et des rois. Puis, depuis mon nid d'aigle, très loin au-dessus d'eux, je vis une flopée de garçons se déverser par les imposantes portes en bois de Chatham School, dévaler les marches en ciment et se disperser dans les rues alentour, moi-même parmi eux, ayant jeté sur mon épaule la veste grise de l'uniforme scolaire qui portait un petit blason brodé sur la poche de poitrine ainsi que la formule « Veritas et Virtus »« Vérité et Vertu » et « Vertu » que mon père avait choisi depuis longtemps comme devise de l'école. Donc, là, le narrateur se souvient. Comme vous l'avez compris, son père était directeur de l'école de garçons et lui-même fréquentait cette école. Évidemment, c'est un pensionnat. Et l'arrivée de la très belle Miss Channing comme professeur, belle, libre, libre de penser, et un passé qui semble, pour les habitués de cet institut si austère, presque sulfureux. Donc, cette arrivée va évidemment être l'élément perturbateur qui va évidemment provoquer un drame dans la petite bourgade si paisible de Chatham en Nouvelle-Angleterre. Petit à petit, ainsi que l'on feuillette un vieil album, l'adolescent devenu un respectable notaire, très triste de ces mêmes petites villes, y va égrener ses souvenirs. Les images se superposent, l'angle de vue varie d'un souvenir à un autre, les passions semblent estompées par le temps. Mais, comme le dit ce narrateur qui se prénomme Henri, puisque nos passions ne nous survivent pas éternellement, notre véritable épreuve et de leur survivre. C'est une phrase qui est une clé du roman, à mon avis. Henri va effleurer cette année-là bien des passions qu'il ne maîtrisera pas, qu'il ne comprendra pas vu son jeune âge. Mais elles sont tangibles. À cet âge-là, soit on en meurt, soit on se rabougrit, on se consume, on se dilue dans une vie terne et sans joie. Et c'est ce qui va lui arriver. Et puisque je citais tout à l'heure les romans de Jane Austen, finissons par une citation de cet écrivain, une citation en forme d'interrogation. Et parce qu'un cœur sincère et sensible a été déchiré, rien ne guérira sa blessure et il doit rester isolé toute la vie. À cette interrogation, par-delà les siècles, Thomas H. Cook répond ici oui, irrémédiablement. Voilà, je rappelle le nom du roman, au lieu dit Noir et Temps, c'est chez Seuil Policier, et c'est, comme vous l'avez compris, de Thomas H. Cook. On va écouter un petit morceau de musique.
Un petit morceau de musique d'une autre époque qui servira d'introduction au roman dont je parlerai juste après, juste pour dire que c'est de Rameau, et c'est le prologue des Indes galantes.
Mais dis-moi, Jacques, quelle fantaisie a pris au programmateur musical qui annonce en début d'émission l'émission polar la plus rock de la bande FM, et tout d'un coup, Rameau, qu'est-ce donc cela?
Ben, on va dire que c'est du baroque.
Oui, oui, c'est du baroque, oui. Mais surtout, cela va très bien.
Avec le roman dont on va parler.
Je voulais, dont tu vas parler.
Voilà, juste, c'était la version des Ânes Galantes de William Christie, de César Florissant.
Voilà, qui est le groupe baroque, mais le groupe de musique qu'il a depuis des années et des années.
Donc, l'auteur dont je vais parler s'appelle Frédéric Lenormand, et le roman Meurtre dans un boudoir, et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Frédéric Lenormand, en fait, s'est fait connaître des amateurs de romans policiers.
Historique,
parce qu'en fait, il a repris la série des aventures du juge T à son... Il a assouillé son nom, et il en a écrit 18 romans qui ont été publiés chez Fayard et réédités dans la collection Point Seuil. Et là, début 2011, il change carrément de continent et d'époque. Il crée une nouvelle série, toujours d'ailleurs de romans policiers historiques. La série s'appelle Voltaire mène l'enquête. Le premier s'appelait La baronne meurt à 5 heures. Et celui-là, qui est donc le deuxième de la série, s'appelle Meurtre dans le boudoir.
Et donc, tu vas nous expliquer pourquoi, alors que c'est pas trop notre tasse de thé, y compris dans les boudoirs, ce roman t'a quand même interpellé au point d'en faire une chronique.
Eh ben, en fait, c'est Voltaire, parce que, je vous le disais, la série s'appelle Voltaire mène l'enquête, et c'est effectivement Voltaire qui va enquêter, et le Voltaire qu'on connaît, François-Marie Arouet, celui de l'affaire Calas, celui qui a écrit Micromégas, Candide, enfin, je vais pas tous vous les citer, il y en a 3 pages.
Puis, de toute façon, tu les saurais pas.
Non. Et donc c'est lui qui va être le personnage principal et l'enquêteur. Alors évidemment, s'il enquête, c'est absolument pas de son plein gré. C'est plutôt sous la menace du lieutenant général de la police de Paris qui va se lancer dans ses investigations. Nous sommes en 1733. C'est à quelques mois avant la publication des fameuses lettres philosophiques de ce brave Voltaire qui lui ont valu quelques soucis. Et donc le lieutenant de police, le lieutenant général de police, fait carrément, ni plus ni moins, il fait chanter Voltaire pour le faire enquêter un peu à sa place. Vous remarquerez que les méthodes de la police ont bien changé, car ce n'est pas de nos jours qu'un flic ou un préfet menacerait un citoyen.
Non.
Alors le premier meurtre, puis les suivants, semblent très liés à une publication licencieuse du nom de Le Tabouret de Bassora. Un livre de contes érotique et exotique, puisque situé dans une Perse de pacotille, qui inspire tous les méfaits de l'assassin. Et Voltaire, donc, aidé de sa bonne amie, Émilie du Châtelet, qui est marquise et femme de science, ils vont mener l'enquête. Émilie du Châtelet a vraiment existé, a vraiment été la bonne amie était vraiment femme de science. Alors, je vous dis comment Voltaire l'a décrit, du moins sous la plume de Frédéric Lenormand. Avec ses grands yeux noisettes et son teint frais, Émilie du Châtelet était aussi belle pour une femme de science qu'elle était intelligente pour une belle femme. Ce qui est plutôt sympa.
C'est plutôt sympa, aujourd'hui.
Cette Émilie du Châtelet est effectivement une femme de science. C'est elle qui a traduit, et toujours, la traduction est toujours en cours, Principia Mathematica de ce brave Isaac Newton, celui de la pomme.
Je trouve que les personnages de ce roman sont tous braves, ce brave Voltaire,
oui,
ce brave Newton.
C'est parce qu'on les connaît, on est familier avec eux.
Tu les côtoies, oui, les côtoies souvent.
Et donc à tous les deux, Émilie et Voltaire, et aussi un jeune curé qui veut être écrivain, ils vont remonter jusqu'à l'auteur des contes, et en trouvant l'auteur des contes, ils vont remonter jusqu'à l'assassin, qui serait en fait un ancêtre, un précurseur de nos tueurs en série.
Serial killer.
Un serial killer. Mais en fait, non, pas vraiment. C'est pas ça. Vous verrez. Alors, Frédéric Lenormand, en fait, il nous fait là un polar, certes historique, mais un polar érudit, un polar libertin, bavard, enlevé, drôle, c'est très drôle, au milieu du tout Paris de l'époque. Alors certes, les personnages surjouent, cabotinent un maximum, un peu comme dans une pièce de théâtre ou de café-théâtre. Il met aussi en scène donc un auteur, Voltaire, un libraire, un imprimeur, ce qui est en gros toute la chaîne du livre du XVIIIe siècle.
Ce qui va bientôt plus exister.
Parce qu'il n'y avait pas d'éditeur à l'époque. Alors je connais certains auteurs qui en seraient très contents, mais bon, ça, il faudra discuter ça avec eux. Vous pourrez les rencontrer à Drape, par exemple, ce week-end. On y croise aussi des noms très connus. Bon, il y a quelques cardinaux dont on parle dans les livres d'histoire, et puis aussi Rameau, dont on écoutait un morceau tout juste à l'instant. Et Rameau qui cherche quelqu'un pour lui écrire le livret d'un de ses opéras. Et Voltaire, bien qu'à court d'argent, refusera de s'abaisser à de telles...
Oui, la chansonnette, c'était pas pour
voilà.
Voltaire.
C'est en fait un roman parfaitement jubilatoire, distrayant, qui fait du bien entre deux romans noirs, dont, par exemple, dont nous parlait Jean-Marc,
oui.
Ou même entre deux romans pas noirs d'ailleurs. Hein. C'est une fantaisie récréative qu'il faut mettre entre de nombreuses mains, mais pas forcément toutes, car il y a certaines scènes dans les boudoirs qui sont parfois un petit peu explicites. Donc
licencieuses, comme tu dis.
Licencieuses, oui. Les libertins se permettaient des choses.
Ce n'est pas le moindre agrément, d'ailleurs, de ce roman.
Non, c'est vraiment. C'est vraiment tout à fait. C'est délicieux. On lit ça vraiment avec délectation.
Et rapidement en plus. Avant de terminer, il nous reste peu de temps. Deux petites nouveautés à découvrir. Enfin, oui, à découvrir, à redécouvrir. Et c'est dans la collection Point 2. Ces tout petits bouquins qui sont les vrais livres de poche, puisque tout petit, pas par le prix d'ailleurs. C'est à découvrir d'ailleurs chez vos libraires dans les très beaux présentoirs qui sont maintenant distribués. Et c'est vraiment plaisant. Alors, les deux... Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, c'est évidemment de Maurice Leblanc, c'est évidemment une réédition, L'aiguille creuse, Le bouchon de cristal. Et puis, totalement différent.
Les deux se suivent et sont...
Excellent. Et puis, Meurtrier sans visage, de Henning Mankell, c'est la première enquête de Wallander. C'est une réédition aussi, donc, mais à l'heure où sonne le glas de la carrière du flic Kurt Wallander dans le dernier roman paru, avant le gel... Il est presque grabataire, de quoi ravir les amateurs de ce personnage polaire. Voilà.
Ils ont même republié aussi une réédition qui n'est pas forcément polaire, mais qui peut se rapprocher de certains romans qu'on aime. C'est 100 ans de solitude.
De Gabriel Garcia Marquez. Un grand roman noir, oui. Voilà. Eh bien, on vous dit à dans 15 jours sous des cieux plus cléments. Au revoir.
Au revoir.